Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble dans nos lectures en liberté en ce début de semaine pour la suite du roman de Alice Zénitaire, L'art de perdre. Aline ne rentre pas se coucher aux côtés de Yema. Il marche entre les oliviers en inspirant l'air du soir à grandes goulées. Il aurait envie d'une anisette. L'air, ça n'apaise pas. Dans le noir revenu, les feuilles lui balaient le visage, ses pieds oscillent sur les racines et les branches cassées. Il tourne et retourne en pensée ce qui vient de se passer. Il ne peut pas nier qu'il a crié et juré comme les autres. Plus que le discours, c'est l'homme qui lui a plu. Cet homme-là, il pourrait le suivre sans honte, oui. Mais contrairement à la majeure partie des villageois que cette scène a impressionnés au point qu'ils s'attendent à ce que l'indépendance arrive dans les prochains jours, Ali n'a pas été convaincu par ce qu'a dit le lieutenant sur la puissance du FLN. Il peine à croire que les pays voisins puissent faire monter des fusils jusque dans les montagnes. Et si l'Égypte envoyait des armes, est-ce que ces hommes n'auraient pas de meilleures machines entre les mains ? Ali a vu l'unique stène contre le flanc du chef et les fusils de chasse dont se contentaient ceux qui l'entouraient. Il raisonne, calcule. Se dit que pour venir ici, les rebelles ont fait en sorte de se présenter sous leurs meilleurs jours, comme le prouvaient les tenues militaires impeccables et le rasage frais du jour, c'est-à-dire qu'ils ont aussi présenté leurs meilleures armes. Ceux qui sont encore là-haut n'ont donc que des pétoires de paysans, au mieux. Et puis, il y a la question des munitions. Ali sait à quel point il est difficile de s'en procurer, lui-même n'en a plus depuis longtemps. Les Français ont imposé un rationnement. Si les fusils sont déclarés, on peut acheter des cartouches une fois par an, c'est tout. Sinon, il faut trouver de la poudre au marché noir et les confectionner soi-même. Ali a déjà essayé, et une fois sur deux, les cartouches pètent à la gueule du tireur. Le reste du temps, elles se désagrègent dans l'arme au moment où le percuteur les frappe. Il va s'asseoir sous la tonnelle qui protège le nouveau pressoir, une mécanique bien plus élaborée que celle apportée par le torrent. Tout près, il entend le bruit de l'âne qui mâchonne. Il allume une cigarette et, à la lumière de la flamme, il se laisse surprendre par l'âge qu'affichent ses mains, des mains devenues grassouillettes et flétries avec le temps. Est-ce qu'il pourrait encore combattre ? Il y a 10 ans, on lui a promis que la guerre ferait de lui un héros. Il ne peut plus y penser sans être pris de tremblement. Il sait que les promesses se font d'autant plus belles qu'elles doivent masquer les risques et maquiller la mort. Il a peur. Il ne pensait pas qu'il vivrait suffisamment longtemps pour voir la guerre se présenter de nouveau à sa porte. Il s'était dit naïvement, à chaque génération, la sienne. Mais croit-il seulement le lieutenant au geste de loup quand celui-ci affirme que le moment est venu, que la guerre est là ? Si le FLN avait de quoi armer les villages, il le ferait sûrement. Il déclencherait l'insurrection générale. Or, ce soir, le lieutenant paraissait plutôt pressé de repousser les hommes qui voulaient monter au maquis. Pourquoi ? Ali est sûr qu'il manque et d'armes et de structures capables d'encadrer des nouvelles recrues. « Tu as vu combien ils étaient tout autour ?» demande Hamza le lendemain matin. Le balai des foyers allumés sur la montagne lui a coupé le souffle. Il n'a pas deviné, comme son frère aîné, qu'il s'agissait justement d'une mise en scène élaborée en fonction d'un effet à produire, pensé pour être regardé de loin et qui de près perdrait sa magie, révélerait le trucage. Quand tu es dans le noir et que tu repasses trois fois au même endroit, toi aussi tu as l'air de trois hommes, répond Ali en haussant les épaules. Il a décidé cette nuit. Il a besoin de preuves pour croire à la lutte. S'il n'est pas sûr d'être du côté des gagnants, il n'ira pas. Il a déjà donné. Yema est enceinte de son troisième enfant et les préparatifs de la fête l'épuisent. La sueur amène dans les plis de son cou un peu du henné qui teint ses cheveux et dessine des ruisseaux sombres sur sa peau dorée. Penchée au-dessus de la bassine, elle se lave à la va-vite pour pouvoir retourner près de son fils avant le début de la cérémonie. Elle a mal au dos. Elle a roulé le couscous avec soin, aider ses belles-sœurs et ses belles-filles. Elle n'a pas encore 20 ans, mais elle se sent vieille. De toute façon, elle ne connaît pas son âge. Elle ne sait que le nombre de ses enfants, et au troisième, elle sera vieille. Elle a à peine le temps d'embrasser Hamid avec appréhension qu'elle est écartée. L'enfant reste dans la maison avec son père et ses oncles, hommes montagnes réunis autour de lui, pareils à des statues grandioses et kitsch dans leurs vêtements traditionnels, kabyles s'amusant pour l'occasion à se grimer en kabyle. Tout d'abord, le coiffeur vient procéder à la coupe des cheveux. Il ne prélève qu'une mèche noire et bouclée, mais par ce seul geste, il entame le processus au bout duquel le petit garçon sortira de l'enfance. Alors, de leur voix de basse, les hommes parlent à celui qui deviendra bientôt un homme de ce que les hommes doivent être. « Bravoure, » disent-ils, « décence, fierté, force, pouvoir. » Et ces mots inquiètent Hamid comme des temps. À l'école, Annie apprend que la Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris. Lorsque les hommes quittent la pièce, les femmes sont de nouveau autorisées à y entrer. Elles font pleuvoir les baisers et les compliments sur Hamid. Elles lui tendent une corbeille pleine de pâtisseries, de douceurs minuscules qui fondent sous la langue, de miel qui empoisse les doigts et Hamid y pioche avec une joie évidente. Yema le regarde faire le cœur serré. Elle sait que son fils ignore tout de la douleur à venir. Il est heureux de cette cérémonie parce qu'on lui a répété qu'il changerait de statut grâce à elle, mais il ne connaît, pour l'instant, des meurtrissures de la chair que les éraflures laissées par les rochers et les buissons d'épines. C'est sans doute comme cela qu'il imagine ce qui lui arrivera demain, une éraflure supplémentaire. Mais surtout, Yema est triste, parce qu'après la cérémonie, Hamid ne sera plus un enfant. C'est-à-dire un être au genre indéfini, mais un homme, ou du moins un garçon. Ce qui veut dire qu'il ne pourra plus rester près d'elle, accroché à ses jupes à portée de ses caresses. Il sera désormais le fils d'Ali, son associé, son futur. Elle va le perdre demain, lui qui n'a que 5 ans. « Mange, mon fils, mange !» murmure-t-elle. À l'école, Annie apprend que René Coty est le président de la République. L'institutrice montre son portrait aux enfants. Annie trouve qu'il est un peu trop vieux pour ça. Une fois qu'il est repu, Hamid tend sa main droite pour qu'on y applique le henné. les femmes chantent. Tes mains prendront la couleur du henné et seront celles d'un homme, un sage. Ô petit frère chéri, comme tu dors dans ton lit de prince et de roi. Claude sort une table devant l'épicerie et profite des derniers rayons du soleil sur le trottoir. On couche Hamid dès qu'il montre les premiers signes de fatigue. Autour de lui, ses demi-sœurs, ses tantes, ses cousines s'assemblent dans un murmure d'étoffe et un tintement de bijoux. Elles lui chuchotent à l'oreille des contes dans lesquels les hommes sont de vaillants guerriers, les femmes des joyaux de pureté, des contes dans lesquels la guerre ne connaît pas la trahison et l'amour ne connaît pas la lassitude. Tandis qu'il s'endort en souriant pour sa dernière nuit d'enfance, la fête continue dans la maison et au dehors sous les oliviers et les figuiers qui peuplent les champs de son père. Les ombres des arbres multiplient celles des danseurs aux lueurs des torches et des lampes en fer forgé. Yema, malgré sa fatigue, malgré son dos qui la ferait pleurer, chante et danse elle aussi, en l'honneur de son premier-né, son soleil qui lui échappe. L'aube blanchâtre se lève sur la fête épuisée. Après avoir terminé sa mise en place matinale, Michel ouvre le numéro de Paris Match sur le comptoir de l'épicerie. Elle lit « Bijard frappe comme la foudre ». Les femmes se regroupent pour accueillir les invités qui commencent déjà à arriver. La fête de la veille était réservée aux intimes, mais désormais les portes de la maison sont ouvertes à tous ceux qui veulent constater la générosité d'Ali. Blême de fatigue sous les fards, le col et les tatouages, Yema et ses belles-sœurs se tiennent pourtant vaillamment debout et cherchent pour chacun un mot aimable. En fin de matinée, il y a des hommes partout dans la maison, assis sur les banquettes, les coussins, les tapis, innombrables. Il y a tous ceux de la famille d'Ali, ceux de la famille de Yema, les villageois, les membres de l'association, dont certains sont montés de la vallée, périple épuisant dont l'accomplissement rejaillit en gloire sur Ali. Ils partagent ensemble la seksou, le repas traditionnel. Les plats de viande et de couscous sont énormes, on ne peut les porter qu'à plusieurs et ils semblent sans fond malgré l'enthousiasme des mains et des mâchoires qui les attaquent. Cette vignette-là, quand elle est racontée, paraît sortie de l'Odyssée. Elle rappelle le champ dans lequel les compagnons d'Ulysse profitent du sommeil de leur capitaine pour se servir dans le troupeau sacré d'Hélios. Ils égorgent les génisses, les dépouillent, leur coupent les cuisses, les enveloppent dans une double couche de graisse et les recouvrent de chair palpitante. Les guerriers font rôtir les génisses et les arrosent avec l'eau. Lorsque les cuisses sont consumées et qu'ils ont goûté les entrailles, ils divisent les restes des victimes et les percent avec de longues broches. Cependant, au cœur même de cette scène de liesse, alors que chacun ne cesse de manger que pour éclater de rire, la joie d'Ali est gâchée par une sourde inquiétude qui lui obstrue la gorge de moitié et empêche la nourriture d'y descendre. Les Amrouches ne sont pas là. Ils ne sont pas venus partager le repas.
Can you tell me?
Lecture en liberté, Denis Flagel.
L'art de perdre, Alice Zénitaire. Les âmes rouges ne sont pas là. Ali ne peut s'empêcher de penser que le passage des hommes du FLN dans le village est responsable de cette absence. Depuis qu'un des leurs a été désigné comme collecteur, les âmes rouges ont décidé qu'ils appartenaient désormais à un nouveau camp qui ne vivaient pas selon les préceptes du village. Ils ont des impératifs extérieurs. Ils ont adopté une logique de guerre. À une cliente qui remarque l'article sur lequel le Paris Match est resté ouvert, Michel glisse dans un murmure souriant « J'en ai connu des hommes qui frappaient comme la foudre, franchement, il n'y a pas de quoi se vanter. Pensez donc !» répond la cliente sur le même ton, « tous ces hommes qui tombent du ciel et jusqu'à présent aucun n'a eu la bonne idée d'atterrir dans mon jardin. » Les pâtisseries remplacent les viandes et les lèvres brillantes de graisse se couvrent à présent de sucre glace, de miel, de miettes dorées et croustillantes. Le rituel est ordonné comme une pièce de théâtre, un opéra, avec ses trappes à double fond d'où peut jaillir le Deus ex machina. Sitôt le dernier gâteau disparu du plateau, on entend à l'extérieur les cris aigus qui annoncent l'arrivée du Hajem, le circonciseur. C'est le signal pour Messaoud, le frère de Yema, qu'il faut aller chercher l'enfant, le retirer au groupe des femmes. Il se lève aussi souplement que le lui permet le festin qui pèse sur son ventre et qui a endormi ses jambes. À sa vue, Yema serre Hamide plus fort contre sa poitrine. Elle ne sait plus si elle joue le rôle qui lui est attribué dans la cérémonie ou si son refus de laisser partir son fils est réel. Hamide, troublé, apeuré par les gémissements qu'émet sa mère, commence lui aussi à pleurer. Il perd son assurance de prince et de roi. Il oublie les mots qu'hier lui répétait son père. Il oublie bravoure, il oublie décence, il oublie force. Messaoud attrape le petit garçon sous les bras. Yema le retient par un pied, elle épingle à sa tenue une broche en argent qui le protégera. Elle l'embrasse. En chacun de ses gestes, elle suit le rite. Et alors qu'elle voudrait que tout s'arrête, elle chante, ou plutôt, elle sanglote. De façon mélodieuse, fais ton travail, circonciseur, que Dieu guide tes mains, ne blesse pas mon fils, je risque de t'en vouloir, fais ton travail. Mais Saoud tient désormais fermement son neveu. Yema finit par lâcher prise. Autour d'elle, les femmes reprennent le chant. « Fais ton travail, circonciseur, le couteau risque de refroidir. » Le Hajem est un vieil homme de la Crète dont la date de naissance se perd dans le temps. Il a l'habitude des pleurs des enfants comme de ceux de leur mère. Il défait calmement dans un coin de la pièce le baluchon qui renferme son matériel, une planche trouée, un couteau, une ficelle terminée à chaque extrémité par une boule de bois, des graines de genévrier. Ali quitte alors la pièce. Au moment où le couteau tranche la chair, aucun des deux parents n'est présent. C'est seul, ou du moins sans leur aide, que le garçon doit affronter la première douleur de sa vie d'homme. Hamid passe entre les mains de ses oncles, Messaoud, le frère de sa mère, le donne à Hamza, frère de son père, qui le place sur ses genoux. Le Hajem écarte les jambes du petit garçon et dispose au sol un plat rempli de terre qui recueillera le sang et le prépuce. Lorsqu'il attrape entre ses doigts l'extrémité du pénis et y fait pénétrer la graine de genévrier pour protéger le gland, Hamid se met à hurler. Pleinement. Franchement. Il a 5 ans. Et il croit qu'il va mourir atrocement mutilé. Il faut qu'il sorte d'ici. Il se débat sur les genoux de Hamza qui ne parvient pas à le maintenir en place et qui lui souffle dans une tentative maladroite pour le calmer. Si tu bouges trop, il coupera à côté. Cela ne fait que redoubler les pleurs de Hamid. Dehors, Yema hésite à bondir dans la maison pour sauver son fils. Les autres femmes la retiennent. Tu ne veux donc pas que ton fils devienne un homme ? Plus tard, voudrait dire Yema, plus tard. Il a toute la vie pour ça. Mais qu'on arrête de le faire pleurer, vous n'entendez pas qu'il a peur, qu'il a encore besoin de sa maman. À l'intérieur, le vieil Hajem regarde Hamid droit dans les yeux avec beaucoup de douceur. « Je ne vais t'enlever qu'un petit morceau, explique-t-il. Il empêche ton sexe de grandir. Quand je l'aurai ôté, alors tu pourras te développer comme un homme. » Hamid, le visage couvert de larmes et de morve, se calme un peu. « Tchac !» dit le Hajem en souriant. Il joint le geste à la parole. La terre du plat boit immédiatement le sang qui jaillit et le morceau de prépuce reste là sur la surface sombre, comme s'il s'agissait d'une bouchée tombée lors d'un festin. La réaction de Hamid est double. Dans un premier temps, il constate avec soulagement que la majeure partie de son pénis demeure attachée à son corps. Dans un second temps, la douleur le frappe comme un coup de fouet. Il voudrait hurler de nouveau, mais déjà, ses oncles le félicitent. « Tu as supporté ça comme un brave. Tu es un petit homme courageux. Nous sommes fiers de toi. » Et Hamid n'ose pas les faire mentir. Le vieil homme se nettoie soigneusement les mains, puis prépare une pâte composée de résine de pain et de beurre qu'il applique sur le gland du petit garçon. Celui-ci se mord les lèvres pour ne pas gémir. Enfin, avec des gestes de magicien, le Hajem perce un œuf et y introduit le pénis de l'enfant. Tous les hommes se lèvent alors à tour de rôle pour laisser tomber des billets de banque dans les mains du nouveau circoncis. Dehors, les voix des femmes et les sons de la flûte et du tambour reprennent. Hamid est devenu un homme. Des Flandres jusqu'au Congo, répète avec application Annie à son père au moment du dîner. Partout, la loi s'impose et cette loi est la loi française.
Mais qu'est-ce que tu dis, ma chérie ?
C'est un poème de François Mitterrand. Quand ils vont enfin s'allonger, côte à côte après les 3 jours de fête, Ali fait semblant de ne pas entendre les pleurs de Yema. La tête cachée sous la couverture, elle sanglote longtemps avant de trouver le sommeil. Dans les petits bruits de colombes qu'elle émet en tentant de ravaler ses larmes, il y a encore tant d'enfance, tant de naïveté. Kali finit par se résoudre à ne pas dormir et il la prend dans ses bras pendant qu'elle murmure « mon tout tout petit, je l'ai perdu ». Rien ne va changer, la rassure Ali, tout ira bien. Il voudrait lui aussi que des bras plus grands, plus forts que les siens, ceux de Dieu, ceux de l'histoire, le prennent et le bercent ce soir-là, et lui fassent oublier la détestable angoisse que l'absence des âmes rouches lui a fait entrer dans le cœur. Un couloir de pierre monte à la verticale pour redescendre en éboulis, ce trou en dentelle calcaire se creuse pour accueillir une petite rivière que l'été boit et assèche. Le paysage ressemble alors à un décor de western. Mais quand l'eau y jaillit, il s'adoucit de cascades, de ruissellements, de vaguelettes. Il reverdit en guirlandes et en coussins. Le long des pentes, les coquelicots fragiles et hâtifs jettent les taches rouges sang de leurs pétales. Les poissons et les anguilles se glissent en éclats argentés dans le courant. 4 kilomètres de défilé rocheux longent l'Isère changeante et la route étroite établie entre l'eau et la roche. Les gorges au nord de Palestro ont attiré beaucoup de touristes au début du XXe siècle et ont largement contribué au développement de la ville. Les auberges et les cafés y ont fleuri pour accueillir les promeneurs, aux souples bottines de cuir, coiffées de chapeaux au ton pastel. Les gorges de Palestro font partie de ces merveilles de la nature que très peu de gens pensent aller visiter de nos jours, alors que Palestro ne s'appelle plus Palestro et que les touristes étrangers ont fui l'Algérie après la décennie noire. Le 18 mai 1956, la section Arthur part pour une mission de reconnaissance. Elle est composée en majorité de jeunes soldats qui viennent d'arriver en Algérie. Jusque-là, ils n'ont eu que le temps de s'installer à la maison cantonnière, de s'étonner de la chaleur blanche et de prendre quelques repas communs aux grandes tables du réfectoire, épaule contre épaule, mastication voisine. Ils ont tendu un filet pour jouer au volley-ball. Dans ce décor magnifique, ils oublient leurs uniformes et offrent leur peau au soleil en s'imaginant déjà rentrer brunis et musclés pour parader dans les rues de leur village. Ils nouent de ces amitiés éclairs que permet le partage de chaque moment d'une journée. Ils prennent les photos pour ceux qui n'ont pas la chance de contempler cette nature éclatante. Qu'il serait bon de venir ici pour les vacances, écrit l'un des garçons à ses parents. Mais le 18 mai, alors qu'ils avancent dans les gorges de Palestro en direction d'Ouled de Djerra, celle-ci se referme sur eux et les broie. La section Arthur tombe dans une embuscade tendue par le FLN et les jeunes soldats, leurs caporaux et l'aspirant, pris en joue par les combattants installés sur les hauteurs, tombent les uns après les autres. Des surplombs rocheux, coincés qu'ils sont dans un goulet étroit, ils sont presque trop faciles à abattre. La mission de reconnaissance prend fin quelques heures à peine après avoir commencé. Est-ce parce qu'ils sont jeunes que l'armée oublie que sa vocation, tout comme celle du FLN, est précisément de combattre, de tuer et peut-être de mourir? Est-ce parce qu'on refuse encore en métropole d'employer le mot « guerre » Est-ce parce que l'embuscade n'a duré que 20 minutes, un temps si court que c'en est insultant? Est-ce parce que les corps sont retrouvés égorgés, lardés de coups de couteau et les yeux crevés, toujours est-il, que de ce jour de mai en France, on parlera comme d'un massacre auquel personne ne pouvait s'attendre? La presse dira que les cadavres des hommes de la section Arthur ont été vidés de leurs entrailles puis remplis de cailloux. Elle dira que les organes génitaux des soldats ont été coupés puis fourrés dans leur bouche. Elle soulignera le raffinement écœurant de la barbarie. Elle montrera à la métropole que l'on meurt en Algérie. Et dans un même temps, elle laissera entendre que l'on meurt davantage lorsque l'on meurt jeune et que l'on meurt encore plus quand on est mutilé. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Alice Zénitaire, L'art de perdre, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.